Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com.
Voilà, cadeau de Noël.
Merci.
Non, je dis cadeau de Noël. C'est parce que c'est par rapport à mon prénom.
Oui, c'est ce que j'avais compris.
Oui. Dis donc, il y a aussi les boules.
De Noël?
Oui. Oh, c'est rigolo.
Bon, ça suffit.
Oui.
Eine Kippe gelbe Kranin, Melek Hazin. Mit sechs Nun, Melekulium, Ulit Mechnum.
Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties bouquins qui nous ont enchantés. Nous vous parlerons de Des gens drôles, un livre collectif d'entretien avec Michel Hazanavicius, Sophie Le Tourneur, David Marsay, Émilie Noblet, Jean-Pascal Zadi, Judith Davis et Florent Bernard. Ouvrage post-facé par Martin Jovol, l'un de nos chouchous. Ouvrage paru chez Playlist Society. Nous évoquerons également avec son auteur Noël Herp le livre « Travestissons-nous » paru chez Capricci. L'équipe de Culture Prohibée remercie Emma Perreur et Benjamin Fogel pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyoffilm.com, sur celui des films de la Gorgone lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Une fois n'est pas coutume, nous débutons cette émission avec un ouvrage paru chez Playlist Society. Vous savez, ces petits ouvrages à petit prix, indispensables. Voilà, une petite collection dédiée au cinéma que l'on aime beaucoup dans l'émission et on vous conseille. Alors, on ne vous a pas parlé de tous les ouvrages sortis dans cette collection, mais enfin, on vous en conseille généralement assez souvent la lecture. Et là, il y en a un qui nous a tapé dans l'œil dans cette collection. C'est l'ouvrage qui s'intitule « Des gens drôles », qui est un livre d'entretien, au pluriel. Hein. C'est un livre écrit aussi au pluriel. Il est écrit entre autres par Quentin Mével, hein, qu'on avait déjà reçu dans cette émission il y a maintenant quelques temps, par Lucille Como, par Adrien Denouette, Théo Ribeton et Guillaume Aurignac. Alors, ce livre propose donc des entretiens avec Michel Hazanavicius, Sophie Le Tourneur, David Marsay, Judith Davis, Jean-Pascal Zadi, Émilie Noblet et Florent Bernard. Et il a la particularité d'être, on va dire, post-facé par Martin Jovin, un réalisateur du Grand Paris. Vous savez que c'est un de nos films fétiches, hein, de l'année dernière, de 2023. On vous en a parlé assez longuement dans l'émission, en particulier par le biais de notre ami Thomas Roland qui n'est pas là aujourd'hui. Dans Des gens drôles, nous découvrons que le situationnisme et ses détournements, tels que la dialectique peut-elle casser des briques, hein, le fameux film de 73 qui détourne le crush de Tu Quangxi, hein, un film de René Vienné, donc qui manipule les images, les dialogues, enfin qui est assez chouette, et bien que ce travail des situationnistes a eu une énorme influence en fait sur le cinéma de Michel Hazanavicius, lui qui a réalisé, évidemment, ça va tout de suite vous venir à l'esprit, La Classe américaine. Alors, il a réalisé La Classe américaine par un concours de circonstances, faut le savoir, hein, parce que Alain Chabat était trop fatigué pour le faire, débordé par l'activité que lui imposait la télévision et le travail autour des nuls. Voilà. Mais bon, il n'y a pas que le réalisateur de deux comédies, parmi les meilleures comédies françaises de tous les temps, en tout cas c'est ce que je pense, hein, pour les deux premiers OSS 117, il y a aussi le réalisateur de ce que je considère moi comme pour l'instant en France la meilleure comédie des années 2020, à savoir Tout simplement noir. Et oui, Jean-Pascal Zadi fait partie des hommes interviewés, des personnalités interviewées dans ce bouquin. Jean-Pascal Zadi, oui, l'homme qui vient de la street de Caen et qui nous révèle là quelques éléments sur le processus d'écriture de Tout simplement noir. En particulier, comment il a travaillé ses textes via l'improvisation aussi que pouvaient se permettre certaines de ses interprètes. Savez-vous, par exemple, que le film n'a pas été écrit en fonction des interprètes? C'est pas étonnant, n'est-ce pas? Savez-vous aussi que David Marseille du Palmachot est une bille en mise en scène et que, tout comme son compère Grégoire Ludig, il est perdu sans Jonathan Barré, leur réel et ami avec qui ils ont signé l'excellent Les Vedettes, hein, comédie jubilatoire dans laquelle on retrouve la verve des grandes comédies italienne. Alors j'avoue, moi personnellement, je suis moins fan de Sophie Le Tourneur et Judith Davis, mais c'est avec plaisir que j'ai appris à connaître Émilie Noblet, hein, qui a travaillé sur Parlement, et Florent Bernard. Émilie Noblet, c'est Bis Repetita qui est sorti récemment au cinéma. Florent Bernard, c'est Nous les Leroy, voilà, des nouveaux visages de la comédie française. Et puis quel bonheur aussi, donc je vous le disais tout à l'heure en intro, hein, mais de voir ce livre postfacé par l'un de nos chouchous de 2023, le réalisateur de Grand Paris, un Martin Jova, qui nous dévoile où il va puiser ses dialogues ciselés, tellement empreints de naturel. Alors au final, nous espérons que ce livre sérieux sur la comédie française, hein, qui en balaye une grande partie du spectre, va inciter d'autres éditeurs à publier des ouvrages sur ce genre, souvent mal aimé quand même de la critique, souvent oublié, alors hormis quand ça va concerner un Ernst Lubitsch ou Woody Allen, un petit peu Judd Apatow, mais on oublie qu'on a toute une école là en France de réalisateurs qui font des comédies ma foi très percutantes, très intéressantes et qui essaient vraiment de sortir de l'ornière des grosses comédies bien grasses comme on en a trop connu dans la production française ces dernières années. Ça s'appelle donc Des gens drôles. C'est disponible chez Playlist Society. C'est signé Quentin Mével, Lucille Comeau, Adrien Denouet, Théo Ripton et Guillaume Aurignac. Et on vous le conseille vivement. Après ce voyage dans l'univers de la comédie, nous allons nous aventurer dans des contrées trop méconnues de l'histoire du cinématographe. Et oui, nous allons parler travestissement. Et nous allons parler d'un ouvrage, d'un petit essai de Noël Herpe. Alors, petit parce que c'est un livre de poche qui fait à peine plus d'une centaine de pages. Mais tout y est dit, tout y est écrit. C'est rédigé avec une érudition, une passion assez exceptionnelle. Hein, voilà. Vous savez, on aime bien Noël Herpe. Hein, on l'avait déjà reçu dans cette émission pour son livre De l'air Clouseau, paru chez Marest éditeur. Et puis, on avait parlé de sa Tour de Nesle, hein, sa version de la Tour de Nesle, son film assez barré qui réinvente quelque part la manière de filmer le théâtre à l'écran avec une mise en scène très travaillée et en même temps un côté kitsch. Enfin, on avait adoré. D'ailleurs, on l'avait projeté même dans une salle. On avait accompagné Noël Herpe pour un débat. Et là, il revient avec Travestissons-nous, un livre qui a comme sous-titre « Quand l'acteur se déguise en femme ». Dans ce livre, Noël Herpe traite du travestissement masculin au cinéma. En partant du théâtre, on ne se refait pas, hein, Noël Herpe est est un fanat de théâtre. Et puis, en partant de situations vaudevillesques, de certaines pièces, il va développer comme ça toute une histoire du travestissement au cinéma, mais aussi revenir sur la perception qu'on a du travestissement. Et puis, à l'époque et aujourd'hui, hein, voilà. Et puis aussi, le livre aussi un petit côté autobiographique, assez intéressant. Enfin, moi, je pense que pour parler du livre, hein, le livre que d'ailleurs qui accompagne une rétrospective qui se tient du 27 mars au 10 avril à la Cinémathèque française, donc qui s'appelle Travesti au cinéma, mais il y a d'autres événements aussi qui vont être accompagnés par Noël Herp. Moi, ce que je vous propose, c'est que, que tout de suite on appelle Noël Herp, voilà, qu'on appelle Noël Herp pour échanger avec lui sur cet ouvrage. Il en parlera bien mieux que moi. On va parler de cet ouvrage, on va parler aussi des différents événements organisés autour de cet ouvrage. Enfin, on a pas mal de choses à se dire avec Noël Herp, donc tout de suite Noël Herp au micro de Culture Prohibée. Pourquoi avoir choisi d'écrire un livre sur le sujet du travestissement? Alors, on s'est présenté comme un livre sur le travestissement masculin au cinéma, mais c'est pas que ça, on en reparlera après.
Oui, peut-être. Il y a toujours des raisons un peu autobiographiques. Disons que moi-même j'ai pratiqué dans une vie antérieure ce luxe un peu sulfureux. J'ai même mis en scène cette situation dans un film il y a une quinzaine d'années qui s'appelait C'est l'homme, qui va d'ailleurs passer à la Cinémathèque le 10 avril dans le cadre de la rétrospective consacrée au sujet. Voilà. Enfin, je joue là-dedans un travesti un peu malheureux, puisque à peine sorti dans la rue habillé en femme, je me faisais kidnapper par de méchants voyous qui me soumettaient aux pires outrages. Donc, c'est pas pour autant que je veuille moraliser le travestissement et dissuader les garçons de se travestir, au contraire. D'ailleurs, le sens de mon titre, c'est à la fois ce côté autobiographique et inclusif. Hein. Je voudrais que tout le monde, fille ou garçon, soit capable de fouiller dans le vestiaire de l'autre sexe. Parce que, oui, je considère quand même qu'il existe encore une différence des sexes et que ça induit qui n'est pas arbitraire, mais par contre, ça induit des différences vestimentaires qui, elles, sont arbitraires et si elles ne doivent pas forcément être remises en cause systématiquement, peuvent être bousculées, interrogées et déplacées, parce que voilà, le charme de la vie, c'est de jouer avec les conventions, sinon on s'ennuierait beaucoup, et par extension le charme du cinéma. Donc voilà, je me suis dit, plutôt que de faire un livre militant, dans l'air du temps, d'ailleurs pas dans l'air du temps, puisque c'est un thème qui n'est pas tellement à la mode que ça, j'ai préféré le décliner à partir d'exemples cinématographiques qui me permettent à la fois de décliner mes obsessions, mais en même temps de les refléter dans des acteurs beaucoup plus célèbres que moi et qui ont pratiqué la chose bien avant. Je me suis dit qu'il y avait un fil à tirer, d'autant plus qu'il n'y avait pas vraiment de littérature sur la question, en tout cas en langue française. Il y a quelques albums parus en Angleterre, aux États-Unis, mais en France, il n'y avait rien. On s'est beaucoup penché sur l'homosexualité au cinéma, mais pas du tout sur ce sujet. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même quelque chose à faire et qu'en même temps, c'était très amusant, tout simplement. Je me suis beaucoup amusé à écrire ce livre et c'est peut-être la raison principale pour l'avoir écrit.
C'est une bonne raison. Alors, vous l'avez dit, Alain.
J'ai investi ma pensée en féminisant les mots.
Ouais. Eh ben voilà. Bon ben écoutez, pourquoi pas après tout. Vous avez dit à l'instant que vous aviez réalisé il y a 15 ans donc ce court métrage qui s'appelle C'est l'homme, qui vous met en scène en prof d'université qui se déguise en femme et qui sort dans la rue. Et vous expliquez dans le livre que ce film, 60 festivals vous ont fait l'honneur de le refuser. C'est démentiel quand même.
Oui, Paul Vecchiali, en son temps, m'avait dit c'est encore mieux que la Légion d'honneur. Je pense que j'étais peut-être un peu précurseur de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que à la fois on est dans un certain moralisme, dans un certain puritanisme, on prétend encourager la transgression, et en même temps, quand elle se présente, on n'en veut pas, parce que le principe de la transgression, c'est qu'elle est toujours surprenante. Alors, j'ai l'impression qu'on vit aujourd'hui dans une époque, et c'était déjà un peu le cas il y a 15 ans, où il faut que la transgression soit tamponnée, labellisée, qu'elle soit passée par les fourches codines d'une certaine rhétorique. Et moi, finalement, je me soucie assez fort peu de ça. J'aime bien sortir des cadres. Donc, je mettais en scène un travesti qui était peut-être à la fois old fashion et en avance sur son temps, je ne sais pas, en tout cas, peut-être un peu inactuel. Et puis, en même temps, ce travesti n'était pas un travesti triomphant. C'était quelqu'un qui s'exposait à la vindicte de Madame Michu, à la haine de la foule, sans qu'on sache très bien s'il y prenait du plaisir ou pas. Et ça, les bonnes gens n'aiment pas que. Hein. Les bonnes gens n'aiment pas que l'on prenne une autre route qu'eux et qu'on ne leur serve pas un discours tout cuit. De ce point de vue-là, je dirais que mon film, même si je ne peux pas m'écraser moi-même sur de trop prestigieuses références, mais il y avait un côté un peu pasolinien. Et en même temps, j'ai pensé aussi beaucoup à Duvivier avec ce magnifique film Panique, hein, où l'homme différent est écrasé par la foule. Et je naviguais un peu entre ces deux références. Il y avait aussi le Velodger de Hitchcock, tout un côté un peu christique aussi, qui est évidemment présent dans le titre. Enfin, tout ça, c'est des choses qui sont des références de cinéphiles et qu'il faut un peu, faut aimer l'histoire du cinéma pour avoir envie de les convoquer. C'est pas le cas de tout le monde. Et parfois, les gens ne comprennent pas trop quand vous n'êtes pas pile dans les thématiques à la mode. Et puis aussi, ça m'avait frappé quand j'avais sorti le film, parce que malgré tout, j'ai pu le montrer, le film a fait sa carrière en DVD et en ligne aujourd'hui. Les gens me disaient « Ah, mais tout ça, c'est vos fantasmes. Pourquoi vous avez voulu mettre en scène vos fantasmes ?» C'est quand même le but du cinéma, quoi. Je veux dire, si le cinéma ne sert pas à mettre en scène le fantasme, qu'est-ce qui reste, quoi. Alors, je sais bien que ce procès au fantasme s'est aggravé depuis, qu'aujourd'hui, on a tendance que tout metteur en scène qui donne à voir par l'écran sa libido, ses torsions, ses perversions, est un horrible monstre. Je suis pas du tout d'accord avec cette conception du cinéma. Si le cinéma n'est là que pour illustrer un discours édifiant, on peut faire du Jean Delannoy, mais enfin, c'est pas le cinéma que j'ai envie de faire. C'est pas que j'ai forcément envie de choquer, mais j'ai envie d'être moi-même, d'être libre et de pas m'emmerder de ce que vont penser les autres. Si j'ai envie de mettre en scène mes fantasmes, et même si mes fantasmes sont un peu bizarres, allons-y, quoi. C'est ça qui fait ma singularité, c'est ça qui va faire que mon film sera intéressant et me ressemblera. Mais il faut croire qu'aujourd'hui, c'est plus compliqué que ça, et qu'on est rentré dans une période de grande peur des bien-pensants et de grande frilosité pour le cinéma français, là, qui traverse un très mauvais moment.
Alors, je suis d'accord, hein, Le Panique de Duvivier, c'est un film monstrueux, qui est très peu connu d'ailleurs, hein, qui est un grand film.
Un grand film. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui faire des films comme Panique, comme Le Corbeau, des films qui mettaient en scène une violence qui n'est pas seulement une violence sociale, qui est aussi une violence pulsionnelle, sans forcément être dans le jugement moral? Vous voyez, ça, je sais pas. Vous me direz que c'était propre aux années 40, qui était une période qui était particulière et où on avait besoin. Au fond, c'est ce que j'appelle la catharsis. Hein. Moi, je crois beaucoup à la vertu de la catharsis. Je crois que le cinéma n'est pas fait forcément pour exprimer et traduire un discours optimiste ou, conforme à une certaine morale, mais qu'il est là. D'abord pour purger les passions, pour exprimer ce qu'il peut y avoir au fond de l'homme, qui n'est pas forcément positif, qui n'est pas forcément joli à voir, mais qui va s'exorciser, se transcender par le biais de cette caverne de Platon qu'est le cinéma, et peut-être rejoindre une certaine beauté. Il est certain que cette espèce de mise à mort terrible du personnage différent qu'est Michel Simon dans Panique, paradoxalement, ça produit une beauté artistique. Allez savoir pourquoi, hein, mais c'est complexe. La beauté artistique est faite d'un certain goût du bizarre. Enfin, il n'y a pas besoin de remonter à Baudelaire ou à Goya pour savoir que la beauté artistique est faite d'un certain goût du bizarre et du monstrueux. Et le travesti est une forme de monstre, oui. Il y a quelque chose qui défie la nature et qui défie la culture. Et ce n'est pas forcément joli à regarder, ça peut être ridicule, ça peut être choquant, ça peut être malaisant, ça peut aussi être très joli à regarder, il n'y a pas de règle. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire forcément l'éloge du travesti. J'essaie de voir en quoi ça produit du cinéma.
Oui, et dans le livre, d'ailleurs, vous expliquez, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez à l'instant, hein, que le travestissement n'est plus à la mode, trop désuet. Pourtant, on est à l'époque où on pourrait se dire bêtement, pourtant il y a des drag queens qui ont des émissions de télé, tout ça, mais c'est pas la même chose. Et vous dites dans le livre, pour moi, quelque chose qui me paraît important, hein, c'est que vous ne vous reconnaissez pas dans la neutralité non-binaire ou la revendication transgenre qui tend à effacer les frontières. Il me faut de la résistance, une limite à laquelle on va se cogner, un danger à conjurer. Le travesti me fascine en tant qu'acteur qui construit un personnage et fabrique une fiction.
Oui. C'est sûr que le travesti, il y a quelque chose à voir. Je fais un peu ce parallèle entre le travestissement et alcool. C'est-à-dire que c'est une sorte de suspension de la raison. Tout d'un coup, on échappe à la rationalité, à la vie ordinaire, et puis on construit un personnage qui est un peu une chimère, quelque chose d'improbable, qui va s'avancer sur la corde raide comme un funambule. D'ailleurs, le travesti a souvent à voir avec le vertige, hein, je le montre à travers pas mal d'exemples, ça va de Némax Bovers au locataire de Polanski, en passant par des murders de Hitchcock, justement. Enfin, c'est souvent un homme de cirque, un homme qui s'effondre dans le vide, etc.
No pastry, no butter, and no sugar.
Pour them again.
Rejoining the living, goose it up a little.
We'll try.
How did those holes get there?
Those?
Vous écoutez Culture Prohibée.
I don't know. Mice?
All right, girls, let's take it from the top. And put a little heat under it.
Running wild, lost control. Running wild, mighty bold. Feeling gay, reckless too. Carefree mind all the time, never blue. Always going, don't know where. Always showing, I don't care. Don't love nobody, it's not worthwhile. All alone. Running wild.
Beanstalk.
J'aime ce côté personnage instable qui n'existe que le temps de la représentation, qui a peut-être pas trop intérêt à sortir de scène parce que là il va se cogner à une réalité souvent hostile, et qui fabrique quelque chose de précaire, de fragile, qui peut-être même, on pourrait presque dire que le travesti, c'est l'essence de la fiction, c'est-à-dire il incarne, il métaphorise, il résume à lui seul le fait d'être une fiction, ouais, puisque c'est un homme qui imagine, ou qui fait croire aux autres qu'il est une femme. Quelle plus belle illustration de ce que c'est que l'art de l'acteur, et quelle illustration plus totale, plus radicale, puisque je pense qu'il y a peut-être rien de plus difficile pour un acteur, surtout que quand il est d'une certaine tradition classique et masculine. Je pense à Jean-Paul Belmondo, par exemple, ou à d'autres acteurs qui n'étaient pas forcément prédestinés à ça. Tout d'un coup. Avoir le courage de se projeter dans cette altérité qu'est l'autre sexe, surtout dans une société où l'autre sexe étaient définies par des vêtements très différents, très, très sexués, mais c'est encore vrai aujourd'hui, en fait. Hein. C'est tout aussi vrai aujourd'hui, ça n'a pas tellement changé. Quand vous baladez dans la rue, les femmes et les hommes sont quand même, restent habillés de manière assez différente. Et je ne sais pas s'il faut forcément s'en alarmer, c'est aussi ça qui permet le jeu de l'un à l'autre. C'est le plaisir du jeu, quoi. C'est le plaisir du jeu, à la fois dans la vie et au cinéma. Et il me semble que le travesti réinvente le plaisir du jeu à sa source, dans son principe originel. Et en même temps dans le fait qu'on n'y croit jamais tout à fait. C'est-à-dire que quand un homme s'habille en femme, il est assez rare qu'on y croit tout à fait. Quand Jean-Paul Belmondo met une guépière, ou quand Rému se met du rouge à lèvres, ou quand Louis de Funès met une petite voilette pour jouer à la critique culinaire dans L'aile ou la cuisse, ben voilà, il y a comme ça des centaines et des centaines d'exemples. On n'y croit pas tout à fait. C'est une fiction commençante, balbutiante et maladroite. Et alors que la drag queen, si vous voulez, ben, quand même, on est passé un peu de l'autre côté, et il y a quand même une volonté de réalisme, alors peut-être hypertrophié, exagéré, etc., mais enfin, il y a un personnage qui est construit, et puis il n'y a pas cette espèce d'état intermédiaire instable dont je parlais. Bon, quant au transgenre, c'est encore autre chose, c'est plutôt une démarche existentielle, c'est pas une démarche de représentation, et c'est encore moins une démarche de vêtements. J'ai pas le sentiment, moi j'ai des étudiants qui sont dans cette démarche-là, j'ai pas l'impression que la question du vêtement soit chez eux fondamentale, c'est plutôt la question du langage, c'est-à-dire qu'ils se définissent à travers le langage, comme homme ou comme femme, c'est pas tellement le vêtement qui les obnubile. Donc c'est encore autre chose, moi. Alors bon, voilà, c'est peut-être parce que j'appartiens à une génération où c'était le travestissement qui était pas forcément à la mode d'ailleurs, mais enfin en tout cas qui était présent dans les représentations. Donc c'est voilà, je parle avec ce que je connais et avec ce qui correspond à ma sensibilité. Libre à d'autres de. Par exemple, je ne parle pas du travestissement féminin, qui est un sujet immense. Mais voilà, j'espère que mon livre va susciter des vocations et qu'ensuite il va y avoir plein d'autres livres sur le sujet qui en aborderont d'autres modalités. Et le travestissement féminin, c'est encore tout un continent.
C'est clair que le travestissement est rarement abordé, le travestissement au cinéma et le travestissement féminin, alors, encore moins. Alors, le livre là, qui s'appelle donc Travestissons-nous, hein, Noël Herbe, qui est paru aux éditions Capricci, il ne traite pas que du travestissement au cinéma. Il mêle intimement, alors quand on vous connaît un tout petit peu, on comprend pourquoi, mais il mêle intimement théâtre et cinéma, puisque vous êtes un grand passionné de théâtre. Et vous partez de La Marraine de Charlet, qui est vraiment, alors là, pour le coup, un texte, je pense, qui est totalement tombé dans l'oubli.
Oui, au départ, c'est plutôt d'ailleurs La Tante de Charlet, qui est en français, ouais. Pour des raisons de bienséance, est devenue La Marraine de Charlet. C'est une pièce, effectivement, complètement oubliée, mais qui n'a pas été oubliée par le cinéma, puisque après sa création en Angleterre dans les années 1890, elle est devenue, bon, c'est une pièce célèbre en Angleterre, à peu près aussi célèbre sans doute qu'Il importe d'être constant, par exemple, d'Oscar Wilde, mais elle est devenue une sorte de matrice à adaptation cinématographique absolument inépuisable, puisqu'il y a eu plus de 15 versions cinématographiques dans le monde entier de cette pièce, aussi bien en France, en Angleterre, aux États-Unis, en Suède, au Danemark, au Brésil, en Égypte, etc. Enfin, c'est absolument insensé. Et alors, on pourrait se demander à quoi ça tient. C'est pas un chef-d'œuvre, hein, d'ailleurs, mais c'est une pièce qui met en scène le pitch du travestissement dans son côté le plus basique, c'est-à-dire c'est un vaudeville. Et ça se passe à Oxford, et on s'y travestit parce que c'est un monde essentiellement masculin. On n'a pas forcément accès à la gente féminine, et donc pour pouvoir côtoyer des jeunes filles, on va s'inventer un personnage de chaperon. C'est pas le petit chaperon rouge, c'est le vieux chaperon à moustache. Enfin, c'est pas vieux d'ailleurs, parce que c'est un copain à peine plus âgé, mais qui va prendre l'identité féminine pour jouer ce rôle du chaperon dont on a besoin. Et donc ça, c'est une modalité de travestissement dans le vaudeville qui est se travestir pour accéder au territoire féminin et pour accéder au corps des filles. C'est la modalité vaudevillesque, hein, qu'on retrouve d'une certaine manière dans La Cage aux Folles, dans la Cage aux Folles, qui est une pièce homosexuelle, mais enfin une satire de l'homosexualité, je dirais même une caricature de l'homosexualité. Mais à l'intérieur de ça, Michel Serrault va se déguiser en femme parce qu'on a besoin d'un chaperon pour que le fils de Hugo Tognazzi, c'est-à-dire Jean Poiret dans la pièce, puisse se marier avec la fille d'un député de droite. Donc, il va, comme il faut une mère, et bien on va l'inventer. Donc c'est à peu près la même situation en fait. Hein. Et c'est un film très très drôle, mais qui reprend un peu cette vocation vaudevillesque du travesti. Alors ensuite, il y a d'autres modalités dans le burlesque, par exemple, mais il est certain que l'origine du travesti, bien sûr qu'elle est théâtrale, oui, et pas seulement dans le vaudeville, elle est aussi dans le musical. Il y a eu toute une mode dès les années 1880-1900, aussi bien dans le musical anglais qu'en France, du travesti comique, du travesti chantant aussi, qui fait qu'on va retrouver beaucoup de travestis dans les comédies musicales. Le vaudeville étant d'ailleurs au départ une œuvre mêlée de couplets. Donc voilà, ça nous renvoie un peu à ce goût de la monstruosité qui était propre à la culture fin de siècle. Hein. On aimait les personnages hors normes qui choquaient le bourgeois et qui sortaient un peu des clous. Et le travesti en est l'un des avatars les plus populaires et qui va courir tout au long du cinéma muet, puisque le cinéma muet emprunte ses poncifs au théâtre. Et certain que dans les années 30, on va avoir non seulement plein de versions de cette fameuse tante de Charlet, mais aussi plein de travestis comiques dans le cinéma anglais et américain.
Alors vous parliez à l'instant de La Cage aux Folles, Noël Herpe. La Cage aux Folles, c'est aussi des anecdotes que vous nous racontez quand vous allez voir La Cage aux Folles avec votre père. Et le livre a une grande part autobiographique, puisque on part de la réception de votre film, mais on peut aussi y lire en filigrane quelques événements qui ont façonné votre personnalité, qui racontent un peu votre histoire. Je pense que c'est important pour vous, et c'est vraiment, je trouve que ça donne un caractère très singulier à ce livre en fait, qui sort de l'essai classique très analytique.
Oui, moi j'ai toujours aimé un peu mélanger les deux, enfin de plus en plus. Je pense pas qu'on puisse parler d'un sujet s'il vous touche pas personnellement et si on s'expose pas un peu soi-même. Et puis j'ai pas envie de rentrer dans un côté analytique chiant. Enfin, j'ai envie vraiment de. Je vous dis, j'ai envie de m'amuser et j'ai envie qu'il y ait en permanence. J'ai envie de me faire des surprises, quoi. Donc c'est vrai que je me balade un peu dans ce labyrinthe qui est l'histoire du travestissement au cinéma, puisque j'ouvre des portes, j'en referme, j'en ouvre d'autres, je parle d'un film et puis tout d'un coup je parle d'un autre, il y a un côté un peu coq à l'âne, marabout de ficelle, qui me ramène finalement, oui, à ma propre histoire, parce que qu'est-ce qu'on fait d'autre de toute façon, quoi qu'on fasse, que raconter sa propre histoire. Donc il y a un côté puzzle, oui. J'espère que le lecteur, j'espère que vous et que le lecteur en général n'en est pas déstabilisé, mais d'après les retours que j'ai, je n'ai pas l'impression. C'est une manière de tendre la main au lecteur et de l'inviter à entrer dans la ronde. Bon, certaines personnes qui ne sont pas forcément archi-cinéphiles trouve que le livre est un peu érudit, que je parle de films que tout le monde ne connaît pas. Que parfois, si on n'a pas vu le film, mais en même temps, je crois quand même j'espère quand même court-circuiter ce risque de l'érudition, justement par le fait que je ne me prends pas trop au sérieux et je traite ce sujet d'une manière à la fois très ludique et en effet autobiographique, avec quelque chose aussi peut-être d'un peu mélancolique. Je pense que si on le lit bien, ce livre, si on le lit avec bienveillance et sensibilité, c'est au fond peut-être mon livre le plus personnel. And through with love, I'll never fall again. Said a doo-doo love, don't ever call again. For I must have you on no one. And so I'm through with love. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stocked my heart with icy frigid air. And I mean to care for no one, because I'm through with love. Why did you lead me to think you could care? You didn't need me, you had your share of slaves around you to hound you and swear with deep emotion, devotion to you. Goodbye to spring and all it meant to me. It can never bring the thing that used to be. For I must have you on no one. And so
I'm through with love. So I'm through with.
Vous écoutez Noël Herp, l'auteur de Travestissons-nous, édité par Capricci, au micro de Culture Prohibée.
None of that sugar. No guy is worth it.
J'ai pas lu tous vos livres, hein, mais je trouve que c'est un livre, bien au contraire, comme vous dites, qui invite le lecteur et qui nous donne. Moi, je. Et en plus, qui est très, très, c'est un livre plutôt joyeux, donc qui se lit très vite parce qu'il est très prenant, il nous happe comme ça. Et puis, bah, les films qu'on connaît pas, alors en plus aujourd'hui, on a beaucoup plus facilement accès aux films. Les films qu'on connaît pas, justement, c'est plutôt une invitation à aller voir ces films. C'est plutôt un livre hédoniste en fin de compte.
Oui, oui, j'ai vraiment envie de donner envie de voir les films, et j'ai envie qu'à la limite, même si on voit pas les films, bon, il y a des films qui sont peut-être dispensables. Je parle de films comme Trois artilleurs au pensionnat, On demande un ménage, Après vous Duchesse, qui sont vraiment des, ce qu'on appelait à une époque des nanars. C'est vraiment des films de seconde catégorie et de dixième catégorie. Mais il me semble qu'on peut s'amuser même à en lire le descriptif, parce que ce que ça raconte est déjà drôle en soi. J'essaye un peu d'inciter à un autre regard sur le cinéma qui serait pas forcément toujours ressasser les mêmes titres, mais aller chercher un peu d'autres exemples, s'apercevoir que l'histoire du cinéma c'est pas simplement les chefs-d'œuvre patentés. On a tendance aujourd'hui de plus en plus à ignorer le passé et à réduire le passé du cinéma à quelques titres qui surnagent et qui font signe à notre époque. Et j'ai essayé de me replonger un peu dans tout ça et de voir qu'il y a en fait une diversité de situations, de possibles, beaucoup plus grande qu'on ne le croit, et que c'est le cinéma. Bon, classique, en tout cas, disons jusqu'en 1960, c'est un vivier à situation inépuisable. C'est toutes les possibilités qu'offre la fiction, quoi. Tout a été fait de toutes les manières possibles et imaginables. Les comédiens ont fait des choses qu'on n'aurait même pas pu imaginer. Il y a des comédiens en plus qui se travestissent à plusieurs reprises et qui le font avec un plaisir à chaque fois décuplé. Je pense à Bob Hope ou à Francis Blanche, Cary Grant, etc. Donc voilà, je me balade là-dedans. Il y a un peu un côté jeu des sept familles. Pour moi, c'est une famille, le cinéma. C'est une grande famille où, avec beaucoup de cousins, d'oncles, de neveux, de grands-mères, de tantes de Charlet, de fils indignes, de cajots folles, etc. Et je me balade dans tout ça avec à la fois un goût de retrouver des parents, oui, des parents de cinéma, et en même temps de renouer les liens d'une manière inattendue, quoi. Là, d'être un peu là où on m'attend pas, et là où je ne me serais pas retrouvé spontanément, parce que je suis pas spécialiste du cinéma américain, par exemple. Je suis plutôt un historien du cinéma français. C'était pas forcément mon domaine. C'est un peu à la demande de l'éditeur que j'ai étendu mon investigation au cinéma anglais et américain. Et ça m'a vraiment, ça a rafraîchi mon logiciel. Et ça m'a amené tout d'un coup à revoir des films ou à me réintéresser à des acteurs que j'avais pas fréquentés depuis très longtemps. Et ça, je pense aussi, c'est ce qui fait la vivacité du livre. Parce que si j'avais parlé que de films français ou de films de Renoir, puisque je parle de La Grande Illusion, je parle de Mazin, bon, mais j'aurais été un peu dans ma zone de confort. Et là, je sens, grâce à Capricci, qui m'a vraiment un peu poussé à étendre un peu mon répertoire, je suis assez content d'avoir étendu, et je me suis. Alors, vous dites que le livre se lit vite, mais je l'ai écrit vite, non sans angoisse, parce que j'avais quand même visionné pas mal de films au préalable, et je me demandais ce que j'allais faire avec toute cette matière, mais en fait, le livre s'est écrit assez vite et avec un immense plaisir.
Le livre se lit vite parce qu'on a envie de tourner les pages, puis les chapitres sont courts. Voilà, donc du coup, ça entraîne une lecture plus vive, quoi. Voilà. Et puis après, moi, pour moi, c'est ce qui fait le sel, hein, vous l'avez dit, hein, de ce genre de livre. Donc, Travestissons-nous, qui est paru chez Capricci, c'est de parler justement. Le cinéma, c'est aussi les films de René Pujol. Et puis moi, j'ai envie de le voir, La Marraine de Charlet de Pierre Chevalier avec Fernand Reynaud, parce que ça, je ne l'ai pas vu. Et du coup, vous suscitez ma curiosité. J'ai envie de voir ça, quoi. Voilà.
Oui, oui. Donc, j'ai aussi envie que les gens voient les films. Et d'ailleurs, c'est pourquoi à la fin du livre, il y a tout un corpus que j'ai pas appelé ça filmographie, ou j'ai appelé ça corpus parce que ça reste assez large, où j'ai indiqué les dates. Ça tombe. De films qui n'ont pas forcément que les films dont je parle dans le livre, il y a peut-être, je ne sais pas, 200 titres, il y en a que j'ai oublié, je ne prétends pas être exhaustif, mais voilà, là je fais une sorte de guide un peu malicieux à partir duquel le spectateur pourra faire son marché. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus exagérer cet aspect, je parle aussi et surtout de beaucoup de films très connus que j'essaie de regarder autrement, ou en tout cas par le prisme du travestissement, puisque, par exemple, La Grande Illusion, qui est un film archi connu, il n'y a pas peu de gens qui se souviennent que le travestissement y est aussi présent, et il l'est. Il y a une bonne vingtaine de minutes du film où le travestissement est au cœur du film. Donc j'ai voulu aussi m'intéresser à ces personnages sur lesquels on ne s'attarde pas d'habitude, parce que ça produit toujours un peu de gêne ou un rire un peu gêné comme ça. Et là, j'ai voulu porter le projecteur là-dessus. Je suis revenu évidemment sur des classiques de la comédie travestie au cinéma, comme certains l'aiment chaud, Mrs. on Fire, Tootsie, qui sont évidemment des films incontournables. Ce n'est pas facile de trouver des choses nouvelles à dire là-dessus, mais j'espère avoir quand même tiré quelques fils.
Ah, mais c'est vrai que moi, La Grande Illusion, j'avoue, je me rappelais pas. J'avoue, j'ai redécouvert ça en lisant le livre. Et puis Jean Renoir et puis son tir au flanc vous inspire aussi une formule. Moi, je la trouve irrésistible. Hein. Et quand le travelling rencontre le travelo, c'est explosif. À propos du travail de l'opérateur, là, Jean Bachelet, vous saviez à l'avance que ça allait devenir comme on dit maintenant, une punchline pour illustrer la rétrospective à la Cinémathèque.
Non, mais à vous dire vrai, c'était le premier titre de mon livre, titre qui, bon, a été jugé un peu touchy, et donc j'ai repris ce titre pour le texte de présentation de la rétrospective à la Cinémathèque, qui a lieu donc du 27 mars au 10 avril, et donc j'ai recyclé ce titre, qui me vaut parfois d'ailleurs quelques commentaires un peu choqués sur Internet, par des gens qui ont l'air de considérer que le mot travelo est forcément une insulte, mais après c'est un peu comme le mot pédé, c'est une insulte qu'on peut récupérer avec humour si on se l'applique à soi-même et si on le fait avec autodérision. Il est évident que je ne prends pas ce mot au premier degré. Et donc, je me suis rabattu sur Travestissons-nous, qui est un titre dont je suis content aussi, qui renvoie d'ailleurs à un autre livre que j'avais publié il y a une dizaine d'années qui s'appelait Dissimulons, et qui était un livre, lui, pour le coup, ouvertement littéraire et autobiographique, mais finalement, il y a un point commun entre la dissimulation et le travestissement. Il est évident qu'on est là dans des domaines assez proches. Mais c'est certain que, la formule, elle est revenue à propos de Renoir et à propos de tir au flanc, parce que, en effet, chez le premier Renoir, il y a vraiment un usage du mouvement de caméra qui est absolument éblouissant. Une manière de se balader dans le décor et d'exprimer par le mouvement de caméra une libido toujours plus débordante. Et à ce moment-là, Renoir met en scène le travestissement un peu comme une sorte d'explosion de sève, quelque chose qui part dans tous les sens et qui fait que la distribution vestimentaire des rôles sexués explose littéralement. Ça, c'est ce que j'appellerais la période dionysiaque de Renoir. Avec tir au flanc. Ensuite, dans La Grande Illusion, ça va être un peu différent, parce qu'on est également dans un monde, dans un registre militaire, mais plus tout à fait dans le comique troupier qui marquait tir au flanc, plutôt dans la prison, la forteresse, etc. Il y a un côté quand même assez sinistre. Et puis tout d'un coup, dans ce monde exclusivement masculin, on va réinventer le féminin à travers la représentation d'amateurs, la représentation de musical, justement. D'ailleurs plutôt porté par des Anglais, hein, puisque ce sont des Anglais qui se trémoussent sur scène en se déguisant en femme, et il se passe là quelque chose qui est complètement ridicule, complètement dérisoire, et en même temps qui va déboucher sur une certaine forme de sublime patriotique, mais de sublime tout court.
Vous écoutez Noël Herp au micro de Culture Prune.
C'est une autre manière pour Renoir de mettre en scène le travestissement. On pourrait presque dire que là, c'est peut-être plus l'explosion dionysiaque, c'est l'hypertrophie du rôle. C'est-à-dire que le travesti, c'est vraiment celui qui pousse au maximum la préséance du rôle. Il n'y a plus que du masque, il n'y a plus que de la grimace, il n'y a plus que du costume. Et il n'y a plus que de la mécanique. Hein, le travesti est réduit à être une sorte d'automate ricanant et qui répète des gestes aliénés, étriqués, complètement factices. Et bizarrement, c'est à partir de cette assomption de la mécanique, cette assomption de l'artifice, que l'humanité recouvre ses droits. Ça, c'est le grand paradoxe du cinéma de Renoir. Et c'est ce qui fait que c'est vraiment un génie. Enfin, je sais pas. Je dirais que les scènes de travestissement dans La Grande Illusion, il n'y a pas que celle-là. Il y en a une autre avant qui est encore plus géniale. Vraiment, ces scènes sont absolument inépuisables.
Après, n'est pas Renoir qui veut. Voilà, mais.
Non, alors on retrouvera un peu cet aspect-là chez Romer. Je pense que quand Romer fait Les Amours d'Astrée de Céladon, beaucoup plus tard, il se souvient de ce traitement du travestissement, c'est-à-dire le travesti comme exaspération du rôle. Cette idée que finalement, c'est pas la personne qui on pourrait presque dire que c'est pas la personne qui construit le rôle, c'est le rôle qui construit la personne. Et que ce qui est premier, c'est le rôle. Et que à partir du rôle, on a peut-être, il faut d'abord être un rôle, il faut d'abord être un personnage, il faut d'abord porter une robe, et peut-être qu'on aura le droit, si on a bien joué son rôle, de devenir un homme. C'est ce que racontent Les Amours d'Astrée de Céladon, qui est, bon, je trouve, une magnifique illustration du travestissement au cinéma, en se souvenant de Renoir, mais en remontant aussi à l'âge baroque, et à une époque où le travestissement était une situation de fiction, était la grande situation de fiction, en fait, hein, puisque on la trouve chez Shakespeare, on la trouve chez Honoré d'Urfey, on la trouve plus tard chez Marivaux, et donc Romer retourne aux sources mêmes pour réinventer le travestissement et lui redonner ses lettres de noblesse, et en même temps une certaine modernité. Je trouve que cette idée que le rôle l'emporte sur la personne, la préséance du rôle et du personnage sur l'identité, elle est à la fois extrêmement moderne, extrêmement forte, et peut-être qu'elle peut nous interroger, nous amener à réfléchir aujourd'hui. On est dans des questionnements identitaires qui deviennent un peu obsessionnels, hein, et peut-être se dire qu'il y a peut-être à regarder un peu plus du côté du rôle.
Alors, dans le livre, hein, Travestissons-nous, il y a aussi différents aspects du travestissement. On a parlé de beaucoup de beaucoup d'aspects depuis tout à l'heure, mais il y a aussi un aspect qui parfois, enfin vous l'écrivez vous-même, hein, parfois le travestissement sauve la vie, et alors au sens propre comme au figuré, et vous parlez d'un film, que moi j'aime bien, on avait parlé nous dans notre émission, un film d'un grand cinéaste britannique, hein, d'ailleurs Michael Powell, qui s'appelle Un de nos avions n'est pas rentré, où un homme évidemment se déguise en femme pour passer inaperçu parce qu'il est en territoire hostile, voilà. Le travestissement, effectivement, Noël Herpe peut sauver des vies.
Oui, oui. Alors ça, c'est la modalité. C'est d'abord la modalité burlesque, c'est-à-dire que dans tout cinéma burlesque, là, il y a eu le vaudeville, mais il y a aussi la tradition burlesque qui est même au cinéma, on pourrait dire, presque antécédente au vaudeville, et puisqu'elle commence avec Chaplin. Et là, à partir de là, on a effectivement Buster Keaton, The W.C. Fields, les Marx Brothers, Abbott et Costello, qui sont Bob Hope, etc., qui se prêtent à cet exercice que j'appellerais la robe ou la vie, hein, c'est-à-dire mais une robe ou meurt, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment le personnage, le protagoniste se retrouve généralement, puisque le principe du burlesque, c'est vraiment la proximité, le comique qui naît dans la proximité de la mort, dans la proximité du danger. Donc là, on est dans des situations de catastrophe exponentielle, et la dernière étape avant la catastrophe, la dernière carte que peut jouer le protagoniste, c'est de se mettre en robe pour échapper à ses poursuivants ou à ses agresseurs. Donc voilà, c'est vraiment, bon, évidemment, c'est lié à une époque où, pour un homme, mettre une robe, c'était infamant, c'était ridicule, c'était une déchéance. Je ne suis pas sûr que c'est complètement disparu aujourd'hui. Et ça produit un comique qui est évidemment d'autant plus fort qu'il s'inscrit dans un contexte de danger, et en même temps ça déchaîne des puissances libidinales. Eros Thanatos, hein, c'est un vieux couple, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette thématique elle évolue. Et chez Buster Keaton par exemple, il y a un côté initiatique, un côté performance initiatique et masochiste à la fois, puisque se fait humilier en scène habillé en femme devant toute une assemblée de bidasses. Ça annonce, à mon avis, un peu le côté initiatique qu'on retrouvera chez Romer, qui était un grand admirateur de Buster Keaton. Ensuite, il va y avoir une sorte, ce qu'on pourrait appeler un débordement du dessin, c'est-à-dire que cette caricature qui est la silhouette travestie déborde un peu de tous les côtés, et ça produit peut-être pas seulement du comique, mais aussi de l'érotique. Et je pense, il y a deux exemples de ça, entre autres, hein, il y a Stan Laurel créant I Feel So Gay dans Les Rois du Gag, alors qu'il joue un personnage de Tante de Charlet plus british que nature, et tout d'un coup il a ce cri du cœur, I Feel So Gay, et puis vraiment gravé dans Fanfare d'amour, film de 1935, où avec son copain Carrette, ils se retrouvent tous les deux à s'habiller en femme, parce qu'ils n'ont pas de job, ils n'ont pas de boulot, et donc la seule solution, ça va être de se faire engager comme musicienne dans un orchestre de filles. Et la manière dont Fernand Gravet assume sa nouvelle identité, de manière comme ça, en papillonnant des cils, en laissant la caméra s'attarder sur ses belles gambettes gainées de soie, en se laissant même vaguement reluquer par un producteur libidineux, tout ça est très savoureux, c'est vraiment le travestissement pour vivre ou pour survivre. On retrouvera ça plus tard dans Tootsie ou dans certains M Show, mais c'est pas que ça, puisque ça produit une espèce de bascule, de chemin, tout d'un coup, des personnages qui sont au départ des gros machos, on peut le dire, hein, des mecs qui vraiment sont des chauds lapins, qui n'ont pas forcément, sont pas forcément des grands féministes, tout d'un coup, ils découvrent en eux-mêmes une dimension des féminins qui les fait bouger, qui les fait sortir de leur répertoire habituel et qui renouvellent leur logiciel macho. Alors ça, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures sur certains M-Show et Tootsie, qui sont à la fois les deux chefs-d'œuvre du travestissement au cinéma, du travestissement pour vivre ou pour survivre, du travestissement comique, mais en même temps, je pense que si ces deux films sont restés dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire que si encore aujourd'hui, c'est peut-être les deux films qu'on cite spontanément quand on parle du travestissement au cinéma, c'est parce qu'ils ont une sorte de portée morale, on pourrait dire. Ils nous amènent à rebattre les cartes du masculin et du féminin.
Eh bien, écoutez, Noël Herpe, donc, votre livre s'appelle Travestissons-nous. Alors, je pense que là, nos auditrices et auditeurs
ont une envie folle de se jeter sur l'ouvrage, je l'espère en tout cas, et de prolonger notre échange à travers la lecture de votre livre. Vous avez, on a rappelé qu'il y a une rétrospective du 27 mars au 10 avril à la Cinémathèque française sur les travestis au cinéma, mais vous avez une autre actualité aussi. Je crois que vous allez être au Forum des Images, et puis après il y aura une tournée en mai, en juillet, un peu dans toute la France.
Oui, il y a beaucoup de choses. Alors, du 27 mars au 10 avril, il y a en effet une vingtaine de films de travestis, dont certains dont je viens de parler. Ça se terminera. Enfin, je fais une signature de mon livre le 30 mars, et puis le 10 avril, je montrerai mon film C'est l'homme avec un très beau film de Gaël Lépingle, assez récent, qui s'appelle Des garçons de province, qui est un film à sketch, en fait, un peu sur le modèle du plaisir de Max Ophuls, et qui est, je trouve, une très belle manière de renouveler la thématique dans la France d'aujourd'hui et dans la France des régions. C'est un film très très fort. Ensuite, en effet, je ferai une petite tournée, notamment dans la région Nouvelle-Aquitaine, et qui se terminera en début juillet par un mini-cycle travesti au Festival de La Rochelle, avec toujours un peu Tootsie comme tête de pont d'ailleurs, qui est un film qui est un peu mon film fétiche.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone. Assisté pour l'architecture sonore de The Last But Not The Least, je veux bien sûr parler de Léo Magnien. Salut les gens, à la prochaine.